Connaître ta parole, Fabien.
Voilà. C'est surtout, je vais la transmettre à Jean Fraya, voilà, qui va faire la prochaine présentation.
Vous m'entendez bien?
Ouais. Oui.
Donc Jean Fraya, je salue nos collègues du Canada. Donc moi, je suis anthropologue indépendant. Je travaille dans une structure pour l'instant unipersonnelle qui s'appelle l'Ethnocafé. Je viens de terminer un premier terrain de recherche sur la construction de la vérité en médecine à l'occasion d'une thèse de doctorat. Et je commence un nouveau travail de recherche plus sur l'accès aux soins, c'est-à-dire sur le trajet, sur l'histoire du trajet du médecin vers le malade et du malade vers le médecin. Donc je vais vous livrer une observation, une des premières observations de cette nouvelle direction de recherche qui est issue aussi de ma pratique de médecin généraliste. Parce que dans un deuxième métier, je suis aussi médecin généraliste. Alors, j'ai fait le choix de vous raconter l'histoire d'une personne qui s'appelle Joséphine Brinderbe, on l'appellera comme ça. C'est une histoire assez banale, en même temps, c'est une histoire qui pourrait être le scénario d'un film d'aventure, donc je vais plutôt vous la raconter comme un film d'aventure, ce sera plus sympathique. Donc la première scène de cette histoire est celle-ci. Bonsoir docteur, ça se passe au téléphone, c'est Madame Brinderbe. Je suis confuse de vous déranger en fin de journée. Je vous en prie, répond le docteur du KM, son médecin traitant. Que vous arrive-t-il? Docteur, je me sens faible, je tousse beaucoup, je pense avoir de la fièvre et je suis incapable de sortir de mon lit. Pourriez-vous passer? Fait un peu la moue, vous croyez que c'est vraiment nécessaire, rétorque son médecin généraliste. Il est déjà tard et j'ai encore du monde. Oui, je préférerais, je suis inquiète. Bon, d'accord, je peux faire en sorte de passer, je passerai après mes dernières consultations, un peu tard, entre 20h et 21h. Lucas M. raccroche, il grommelle dans sa tête, c'est le pire pour lui, la visite qui s'annonce en début de soirée, suffisamment urgente pour ne pas pouvoir la refuser, juste au moment où l'on sent que la journée de travail se termine. Mais Lucas sait que Joséphine vit seule, et si elle pense ne pas avoir la force de se lever, c'est une situation vraiment un risque pour elle, donc il ne pouvait pas négocier davantage. Donc le médecin accompagne le dernier patient à la porte, il ferme le cabinet, sort son vélo, accroche sa sacoche et part dans le froid du mois de février, escalader les pentes de la Croix-Rousse pour aller chez sa patiente. Il arrive, il salue poliment le fils aîné, qui est là, ce dernier le remercie du dérangement, selon le mot classique. Il l'accompagne au chevet de sa mère. Donc Joséphine Brinderbe a 95 ans. C'est une grande femme de bonne éducation et de vigueur. Elle a le cheveu blanc, le regard vif qui vous accroche. Elle explique à son médecin ce qu'elle ressent. Lucas l'examine, il diagnostique une infection pulmonaire et prescrit du repos au lit et un antibiotique. Il donne quelques consignes à son fils pour la nuit, encaisse les 33 euros, et retourne à coup de pédale glacée à son cabinet, ranger ses affaires avant de rentrer chez lui vers 21h30. Quelques heures plus tard, Joséphine est allongée dans le noir, malmenée par la fièvre. Elle décide quand même de se lever, comme elle le fait chaque nuit, mais elle ne souhaite pas réveiller son fils pour ça, ce serait un petit peu gênant, même s'il a décidé de rester là pour veiller sur elle. Donc elle se met debout, et après quelques pas, avec la fièvre catastrophe, elle s'effondre sur elle-même et se fracture net le col du fémur. Elle se retrouve quelques minutes plus tard dans le camion des pompiers. Le lendemain soir, deuxième scène du film, le docteur M lui rend à nouveau visite, mais cette fois à l'hôpital. Donc il retrouve sa patiente très affaiblie et contenue dans un grand lit métallique au drap impeccable de l'hôpital. Elle se fera sûrement opérer demain. Joséphine lui demande poliment : « Je veux guérir. Vais-je m'en sortir, docteur ? » Lucas sourit. Pour masquer une hésitation, vous êtes solide, finit-il par dire, sans grande conviction. Lucas prend congé de Joséphine Brinderbe en pensant qu'il ne la reverrait probablement pas. Les fractures du fémur à cet âge sont redoutables et il le sait. Madame Brinderbe reste 15 jours hospitalisée. Le chirurgien attend au final 6 jours pour réparer son fémur, le temps qu'une infection pulmonaire soit guérie. Puis il opère un peu comme on joue au poker. Mais Joséphine se réveille, très faible, mais bien en vie. Une fois les suites opératoires passées, la patiente est transférée dans un centre hospitalier périphérique connu pour ses soins gériatriques de qualité et ses bonnes prises en charge palliatives. Troisième séquence. Une fois installée dans sa nouvelle chambre du centre de gériatrie, Joséphine est dans un état stationnaire. Elle est trop faible pour assumer la moindre tâche de son entretien, mais encore assez forte pour s'exprimer et dire son souhait urgent de rentrer chez elle. Elle pense qu'alors elle ira mieux. Elle insiste de son lit auprès de chaque soignant qui passe dans sa chambre et auprès de chacun de ses enfants. Elle arrive même à avoir la force d'appeler son médecin traitant pour lui dire qu'il faut qu'il la sorte d'ici, sinon elle va mourir. Au téléphone avec son médecin, elle a une cohérence limite et Lucas l'encourage à poursuivre les soins. Elle lui dit que le centre est de très bons services. Mais Joséphine décline dans le scénario classique des personnes âgées dans sa situation post-chirurgicale. Nul doute qu'elle va mourir. Son mari lui est mort il y a 10 ans, aussi dans un hospice, aussi après une chute. Elle a eu avec lui 3 enfants, un fils, Jacques, puis une fille, Hortense, et un deuxième garçon, Luc, décédé il y a 5 ans dans un accident de la route. C'est le fils de ce dernier, Thierry, comptable, qui aide la patiente dans la gestion de ses affaires. Jacques et Hortense sont très présents, même si leur âge commence déjà à les ralentir un peu. Ils comprennent que leur mère arrive en bout de course et veulent suivre scrupuleusement ses dernières volontés. En plus, leur père, avant de mourir, leur avait demandé de bien s'occuper d'elle. Mais les soignants du centre disent que la patiente est trop fragile pour être transférée à son domicile et que ce sera possible que lorsqu'elle ira mieux. Les enfants ne comprennent pas bien cette position et appellent Lucas M., son médecin traitant. Ce dernier écoute. Il commençait d'ailleurs à culpabiliser depuis quelque temps de ne pas avoir pris de nouvelles et de ne pas être très actif dans cette histoire. Mais il a tellement de travail au cabinet. Il n'avait pas le temps d'appeler. Lucas dit à la famille qu'il va appeler le chef de service du centre. Finalement, 3 jours plus tard, il arrive à prendre son téléphone et appeler le docteur FD, la chef de service. Le docteur FD lui explique que Joséphine n'est pas loin de la phase palliative du soin et qu'elle est trop faible ce jour pour un retour à domicile. Tout serait trop compliqué à organiser pour un bénéfice probablement nul selon elle. Elle risquerait même de mourir pendant le trajet. Elle est bien soignée ici, sous bonne surveillance. Lucas acquiesce et lui dit qu'il est malgré tout prêt à la prendre en charge une fois la patiente retournée, même en hospitalisation à domicile. Les jours passent au centre et Joséphine est au plus mal. Ses enfants et son neveu commencent à perdre patience. Le docteur D est inflexible. À nouveau, la famille contacte Lucas. Ce dernier trouve que cette situation devient un peu grotesque. Il rappelle l'hôpital gériatrique et tombe sur l'interne. Il s'énerve plus facilement contre ce tiers. Il lui dit « On est tous d'accord avec le fait que la patiente va mourir, elle veut rentrer chez elle, sa famille accepte le risque qu'elle meure pendant le trajet, donc où est votre problème ?» L'interne répond, moi je suis d'accord avec vous, mais notre chef de service voit les choses d'un autre œil. Mais je vais en reparler avec elle. Et le docteur D est confraternellement contraint de lâcher prise. Le lendemain s'organise le transfert. L'organisme d'hospitalisation à domicile, donc l'HAD, est sollicité. Tout se met en place rapidement et Joséphine rentre enfin chez elle dans l'après-midi, 5 semaines après sa chute, avec 3 superbes escarres, 2 au talon et 1 au sacrum. Nouvelle scène, Joséphine est chez elle, dans un demi-état. Elle est agitée, confuse, presque gravataire. Elle semble essayer sans cesse de vouloir sortir du lit pour se lever. Heureusement qu'il y a des barrières. Le médecin du centre avait en plus suspecté une récidive d'un ancien cancer des cordes vocales du fait d'une voix cassée. Elle avait confié à la famille de Joséphine que cela arrive souvent dans ces situations délicates. Aucun examen n'a bien sûr été prescrit pour confirmer ce diagnostic vu l'état de la patiente. Mais du coup, il est clair pour tout le monde que Joséphine est maintenant en soins palliatifs et qu'il faut soigner au mieux son confort jusqu'à son trépas. Eric F. est le médecin coordinateur de l'HAD. Il est chargé du bon déroulement des soins, habitué de ces situations délicates. Il est censé travailler de concert avec le médecin traitant. Mais du fait de son expérience en ces soins techniques, il prend souvent l'initiative de la prescription et est souvent sollicité en premier lieu par la famille et par les infirmières en cas de difficulté. Eric échange avec Lucas au téléphone. Il travaille à s'accorder sur les prescriptions. Lucas est bien d'accord avec ce que propose Eric, d'autant qu'Eric est chez la patiente et que ça l'évite de partir en visite, lui qui attend le travail. Et Joséphine se doit donc protocoliser selon l'usage quand ton vice est un des instants. Prescription de diurétiques, corticoïdes, oxygénothérapie et aérosol pour mieux respirer, scopolamine pour mieux vivre les râles de l'agonie, un anxiolytique et un patch de morphine pour gérer les douleurs morales et les douleurs physiques, notamment des escarres. 3 jours plus tard, un matin, Lucas reçoit un nouvel appel, celui de l'infirmière très inquiète. Madame Brinderbe est dans le coma. Elle n'est plus réactive, mais quand même un peu pour suspecter qu'elle est douloureuse. Elle demande s'il faut augmenter les doses de morphine et poser une perfusion d'hydratation pour nourrir ses dernières heures de vie. Je penserai pour Lucas qu'il faut vérifier qu'elle n'est pas simplement en surdosage de médicaments. Il demande à l'infirmière de stopper la morphine et les anxiolytiques et passera à la voir le soir même. L'infirmière bougonne un peu. Et le soir venu, Lucas arrive chez la patiente. Et là, elle est bien réveillée. Il fait un sourire et lui dit « Non, effectivement, ça ne va pas. Je trouve que je ne progresse pas assez vite. » Cela fait rire Lucas. Il réévalue son traitement et va jusqu'au bout de sa stratégie qui semble payante et arrête 7 des 10 médicaments prescrits. Petit à petit, les jours passent encore. Joséphine récupère. Elle ne cesse de se plaindre qu'elle ne fait pas assez d'efforts, qu'elle devrait se lever, qu'elle devrait marcher davantage. Elle s'accroche sans cesse avec son auxiliaire de vie qui panique à l'idée de ne pas pouvoir la ramasser en cas de chute. On lui impose toujours les barrières de chaque côté de son lit et elle tente toujours de passer par-dessus. L'entourage évoque la possibilité de la contenir, autrement dit de l'attacher à son matelas. Lucas est sollicité sur la question, passe voir la patiente et lui propose comme contrat, pour tranquilliser tout le monde, de ne pas se lever sans la présence de 3 personnes chez elle. Elle acquiesce, tout le monde est rassuré. Les jours se succèdent, une kinésithérapeute vient deux, trois fois par semaine. Joséphine trouve cela, encore une fois, bien insuffisant pour retrouver son autonomie. Et la situation va durer ainsi des jours et des jours. Mais elle reprend suffisamment de force pour tenir la position assise, puis maintenant la position debout, pendant quelques secondes. Les semaines passent, de petits progrès en petits progrès, et le comptable de neveu commence à se tendre. Il trouve que l'organisation de la garde de nuit coûte beaucoup trop cher, et en plus, avec les charges de l'appartement, ça devient compliqué. La situation mange le capital familial. Une maison de retraite serait moins chère et, selon lui, plus adaptée. Il dit à Lucas, le plafond ici ou en maison de retraite sera le même à regarder. Il suggère l'idée à la patiente, à sa tante. Joséphine hésite, mais elle entend l'argument financier et le fait que son entourage est très sollicité. Elle en est d'ailleurs très culpabilisée. Mais quand même, quitter son appartement ou son latent de souvenir avec son cher mari n'a rien d'évident. Justement, une réunion de famille est organisée dans l'appartement. Lucas y assiste, sont présents le frère de la patiente, les enfants et le neveu. Et il est décidé que Mme Brinderbe ira visiter la maison de retraite où une chambre lui est d'ailleurs déjà réservée. Elle acquiesce, c'est peut-être mieux ainsi, dit-elle. Le jour J, elle fait quelques pas dans l'établissement, échange quelques mots poliment avec le directeur et dit un non catégorique. Non, ce n'est pas pour moi. Son neveu est furieux et ne lui adressera plus la parole pendant des mois. Quelques jours plus tard, Lucas, en visite à nouveau chez elle, passe près de son bureau et voit un mot écrit à la main. En croyant qu'il est adressé, il lit la fin de l'écrit. C'était en fait le journal de Joséphine et elle écrivait du haut de ses 96 ans. Je comprends juste aujourd'hui combien il est difficile de se mettre à la place des autres. Alors, j'aurais presque envie de m'arrêter là et de vous laisser à cette histoire et que chacun fasse l'ethnologie de ce récit. Mais je vais quand même m'obliger à vous donner un point de vue sur cette histoire. Ce que moi je vois, c'est que Joséphine fait effort tout le long pour se libérer des avis des uns et des autres, en rappelant la possibilité qu'elle vive encore, voire même un droit à vivre encore. Et pour cela, elle a cherché de l'aide, de l'accompagnement, de la sollicitude, de l'aménagement pour son environnement. Elle avait besoin d'autres, que les autres soient non seulement solidaires, mais en souci pour elle, que les autres aient encore un peu de goût à son contact, que les autres croient en son projet. Face à ça, Joséphine est restée souvent seule. Lucas n'a jamais le temps, Ève l'avait hospitalisée, Eric l'avait sédatée, et le neveu, lui, l'avait déménagé. Elle n'a finalement trouvé aucune solidarité pour son projet, car beaucoup avaient décidé qu'elle devait, entre guillemets, mourir, comme dans un ordre des choses. Même si chacun ici a fait son métier comme il faut, la qualité technique des soins a toujours été au rendez-vous. Ces soins-là les obligeaient de toute façon, ils ont assumé chacun leurs responsabilités. Alors j'ai lu récemment un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Autour du soin », la coordonnée par Thomas Pierre, et dans l'introduction, Saïd Merdi y avance « Le soin suppose une équivalence avec la maladie. Le modèle de soin, lorsqu'il existe, légitime la maladie à laquelle il s'applique et traite. » En d'autres termes, la maladie n'existe que par le modèle de soin qui lui est proposé. Maladie et soin sont en définitive les deux faces d'une même pièce. Les modèles de soins de chacun des soignants ont généré ici aussi des maladies, ont généré un cancer des cordes vocales, généré une agonie imminente. Et chacun y a trouvé le sens qu'il voulait. Je continue toujours dans ce texte du livre autour du soin, dans l'introduction. On nous dit ainsi, les malades, quelle que soit finalement la définition qu'on donne à la maladie, doivent être secourus, on doit leur donner assistance. Les sociétés ont toujours des politiques censées répondre à la maladie, au malheur qui en résulte, avec des dispositifs devant prendre en charge les individus les plus fragiles, afin de leur apporter des réponses en termes de soins. Au soin proprement dit, celui qu'on pourrait appeler le cure, s'est adjoint progressivement une autre dimension, celle du care, que l'on pourrait définir ici par prendre soin. Alors le cure, comme on l'a dit, il était là dans l'histoire, de belle façon, chacun a soigné avec ses techniques. Mais il y a aussi une perspective du care dans ces intervenants, on ne peut pas la nier. Il semble qu'ils soient tous les médecins des caregivers, voire le neveu aussi. Il ne se limite pas aux soins techniques. C'est Sandra Logier qui dit l'importance du care, c'est reconnaître que la dépendance et la vulnérabilité sont des traits de condition de tous. Et chacun a aussi investi la relation dans ce sens, malgré tout. Il y avait quand même de la confiance, il y avait quand même des espaces de dialogue. On ne peut pas non plus parler vraiment de domination, de hiérarchie. Mais il n'y avait pas pour autant une égalité dans le sens d'un socle commun d'humanité, celle où chacun est dépouillé de son identité imaginaire pour se laisser altérer par la rencontre, qui fait émerger quelque chose de vivant entre chacun. En fait, chacun est resté empêtré dans son identité imaginaire ou son identité construite. Du care comme prendre soin, il ne semble rester que le prendre soin. Car là, le soin, il s'agit bien de quelque chose que l'on cherche à prendre à l'autre, comme un bien que l'on se dispute. Et quand les soignants se disputent le soin en tirant vers eux, comme ils le peuvent, comme un peu une corde à nœuds, Joséphine, elle, fait de même. Elle fait tout pour récupérer son soin et le mener dans son sens. Il s'agit bien là d'une sorte d'affrontement. Les mondes privés des soignants, d'une façon de Merleau-Ponty, finalement se mènent une sorte de guerre d'influence que la patiente, dans son monde à elle, lutte pour ne plus être l'objet d'un marchandage ou d'exister en tant que tel. Chacun défend là son identité, chacun là règle avec le voisin ses rapports de pouvoir, et le care, lui, ne semble pas résister à cette guerre des mondes. Bon, en tout cas, évidemment, la conclusion, c'est que de son expérience de ses 96 ans, Joséphine nous donne la clé, nous interroge sur la pratique d'anthropologue, je comprends juste aujourd'hui combien il est difficile de se mettre à la place des autres. Alors en attendant que nous ayons 96 ans, ce qui importe et qui doit nous réjouir, c'est qu'aujourd'hui, je vous garantis, Joséphine est bien guérie. Merci.
Je remercie beaucoup Jean Faya pour cette présentation très originale qui nous amène à travers l'histoire de Joséphine Brin d'Herbe, qui pourrait être notre grand-mère, notre maman, notre grande-tante, à explorer ces tensions entre la vie et la mort et cette zone liminale, cette zone grise qui existe quand la vie s'essouffle et que la mort s'annonce. Et voilà. On va passer peut-être à quelques questions de précision et puis on gardera le temps pour le débat.
Bonjour et merci beaucoup pour cette intervention. Donc, je suis Antoine Palardi, je suis sociologue. Comme on est dans les questions de précision, ça va paraître très trivial la question que je vous pose, mais elle n'est pas tant que ça parce que je me la suis posée il n'y a pas longtemps en écrivant un texte et en mettant en scène des personnages. Et ça m'a frappée parce que vous avez fait la même chose que moi et je me suis posé ma propre question. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnages à qui on donne un nom et un prénom? Et pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres à qui on va synthétiser le nom de famille par une lettre comme si vous l'anonymisiez, alors que Joséphine Brindert, vous ne l'avez pas anonymisée, vous l'avez personnalisée. Et donc, je me suis demandé, moi, dans une autre situation, qu'est-ce qui avait fait que, pour certains acteurs, je mettais une initiale et pour d'autres, je mettais un nom. Et je voudrais savoir si y a c'est une réflexion que vous êtes faite aussi.
Oui, c'est une réflexion que je me suis fait. Alors, cette manière d'écrire, je l'ai utilisée 2-3 fois avant. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai donné un nom de famille à un personnage. Je crois que, après, je me suis demandé s'il fallait que je change, parce que du coup, ça n'avait peut-être pas de cohérence avec le reste. Et puis, en fait, je me suis dit que, quand je parlais d'un film, finalement, c'est un côté. C'est aussi pour la valoriser dans l'histoire. C'est elle qui est l'héroïne de l'histoire. Et je trouvais que ça avait du sens. Alors c'est sûr que peut-être ça l'humanise un peu davantage que les autres, et donc on humanise la patiente, on n'humanise pas les médecins, donc là aussi c'est quelque chose qui n'est pas, d'habitude je ne vais pas tellement dans ce sens-là, mais voilà, je pense que c'était pour la mettre en valeur probablement, pour lui donner peut-être plus de couleur.
Il y a une question au niveau de Ottawa.
Oui, il y a une question à Ottawa. Oui, bonjour, Julie Lapointe, merci beaucoup pour le récit. Je trouve que c'est une manière très puissante de faire parler beaucoup de choses. J'ai deux questions. Une peut-être plus petite. En fait, je vais poser la question où vous étiez dans cette histoire, vous, dans votre chapeau d'ethnologue. Et la deuxième question, en fait, c'est je voudrais. Vous entendre un peu plus sur ce que vous avez dit vers la fin. Vous avez parlé qu'il n'y a pas de socle commun d'humanité. Vous avez un peu fait allusion au fait que chacun aurait un projet différent là-dedans, un peu individuel. En fait, je ne suis pas sûre si j'ai manqué quelque chose. Je ne sais pas où on est dans le monde. J'imagine la France, la montagne, mais je ne sais pas si vous pouvez préciser aussi où se passe l'histoire. Mais surtout sur qu'est-ce que vous vouliez dire, un socle commun d'humanité, c'est comme si chacun avait son projet, et est-ce que c'était une critique qui manquait une sorte d'entente commune? Et vous parlez comme si, je ne sais pas si j'ai tout à fait bien compris, comme s'il manquait quelque chose de commun entre tous les gens, et vous avez évoqué un peu Merleau-Ponty. Et comme s'il n'y avait pas d'investissement dans les formes de vie entre les personnes, si vous pouvez élaborer sur ça.
Alors, où je suis dans l'histoire, vous avez peut-être deviné, en fait, Lucas M est un personnage ethnographique, mais avant d'être réinventé dans l'ethnographie, donc il décrit mon positionnement à moi en tant que médecin généraliste dans cette histoire. Et l'histoire se passe donc à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. Pour votre première question. Après, le socle commun d'humanité, alors ce que je ressentais, c'est que le socle commun d'humanité, ce serait une rencontre un peu comme des amis qui se connaissent autour d'une table où on se laisse un peu toucher par les uns et par les autres, et cette façon de se laisser toucher fait qu'on peut accéder au projet de l'autre. Et là, on a l'impression que finalement, les acteurs ne se laissent pas toucher, ne se laissent pas finalement toucher, comme si la perception qu'ils avaient les uns des autres, la perception des soignants sur le projet de Joséphine, était une sorte d'effleurement, comme si elle glissait sur la réalité sans prendre le temps de se poser, de prendre contact avec Joséphine pour comprendre son projet. On a l'impression que les soignants, mais je mets ça dépasse la question du médecin, c'est-à-dire que les intervenants, je mets le neveu aussi dans cette histoire-là, en fait, on a l'impression qu'ils savaient des choses avant même de les savoir, parce que à un moment, il n'y avait pas, peut-être qu'il manquait une rencontre ou quelque chose de cet ordre-là, enfin. Peut-être que je ne mets pas les bons mots dessus, mais c'est ce que je percevais.
Est-ce que je peux pousser encore plus loin?
Oui, bien bien sûr.
Parce que dans cette conclusion-là, c'est comme si vous imaginez un peu un meilleur scénario, ou que les choses auraient pu se passer d'une meilleure façon, que les gens se laissent plus toucher. Et en fait, ce que vous dites aussi que je trouve particulièrement intéressant, c'est que la maladie existe par le modèle de soins qui la légitime. Donc, est-ce que vous nous amenez un peu vers l'idée qu'il faudrait avoir un projet ou qu'on ait un modèle pour prendre au sérieux que Joséphine veuille continuer à vivre ou que ça a échappé parce que les gens avaient plutôt décidé qu'elle devait mourir plutôt que continuer à vivre? Est-ce que c'est un peu vers là que vous nous amenez ou...
Je ne crois pas que je propose un scénario. Je pense que il y a un côté un peu, un peu négatif peut-être dans cette histoire. Je ne propose pas de meilleur scénario. Après, la question c'est est-ce qu'on est en capacité vraiment à un moment de se laisser toucher par les choses et de sortir de sa propre conception de son implication et de sortir de du sens qui nous pousse en tant que soignants et de notre idéologie du soin, en fait. Et finalement, chacun avait son idée de ce qu'il fallait faire. On pourrait réécrire l'histoire comme dans un conte pour enfants, mais je ne sais pas si elle est possible, si on peut la réécrire comme ça. Non, mon interrogation, c'est juste dans quelle mesure on est en capacité de comprendre, de sortir suffisamment de sa vision des choses et de son monde personnel pour s'ouvrir au monde de l'autre. Enfin, bon, c'est des questions généralistes en anthropologie, mais après je me demande moi-même en tant que soignant si je dans quelle mesure je peux avoir cette capacité là, je ne sais pas.
Il y a plusieurs questions encore ici.
Patrice Cohen, anthropologue. Merci pour cette intervention. Alors, ça nous propulse dans un autre monde qu'on a l'habitude de connaître, hein, avec la façon de présenter le sujet, la problématique. Donc, effectivement, on vous a posé la question de où vous étiez. Vous avez répondu que vous étiez le médecin. J'aimerais vous interroger. Où est l'anthropologue là-dedans? Et quelles sont les questions que vous êtes posées, alors vous, anthropologue et médecin, pour construire cette recherche et pour nous restituer ce récit? Parce qu'il est très évocateur, bien sûr. Mais vous nous avez presque laissé esquisser le moment où on allait interpréter le récit que vous avez livré. Vous avez quand même livré votre interprétation. Mais on peut avoir l'impression que c'est peut-être une fiction. On peut avoir l'impression que c'est un assemblage de différents récits. Différentes situations. Comment avez-vous construit ça et quelles sont les questions que vous avez pour arriver à ce type de recherche et de récit?
Alors, donc moi, je suis anthropologue et je tiens à rester médecin généraliste, mais je tiens à rester généraliste aussi pour l'anthropologie, c'est-à-dire que... alors, c'est sûr que c'est très débattu, hein, ça a été... très très débattu pendant le doctorat où finalement on me disait mais parler de vous-même ça ne nous intéresse pas, enfin ça m'a été dit tel quel à l'université. Après moi je base beaucoup mon travail sur la réflexivité, mais je pense que tous les anthropologues pourraient le faire et que l'anthropologue plus qu'expliquer qui sont les autres, il doit essayer de comprendre une situation où lui-même est impliqué. Donc moi il se trouve que je suis médecin, j'ai cette chance en anthropologie et je veux la garder. Mais ça n'empêche pas que je reste un anthropologue dans une situation, alors certes une situation un peu particulière, mais j'essaie de comprendre la situation dans laquelle je suis impliqué. Donc moi, en termes de méthodologie, je trouve ça vraiment... Enfin, moi, ça ne me pose pas de problème, et je trouve ça... je trouve que j'ai de la chance, et je la saisis. Alors, l'histoire est une histoire vraie, hein, donc j'ai réinventé comme on réinvente quand on écrit une histoire vraie, hein, donc... reconstruire le monde à chaque fois qu'on écrit. Donc, mais en tout cas, c'est une histoire que j'ai pratiquement pas changée, sauf pour des questions d'anonymat. Et après, la question, c'est pour ça que j'avais envie de m'arrêter au récit. C'est-à-dire que quand je me suis inscrit au colloque, on pouvait choisir entre ethnographie et différentes choses, épistémologie et tout ça. Donc moi, je me suis inscrit dans l'ethnographie et j'avais d'abord envie de vous livrer une ethnographie. Et après, voilà, moi, ma question, après, c'est chacun, enfin, voilà, c'est son parcours de recherche. Moi, je suis un peu resté bloqué au livre Visible et Invisible de Merleau-Ponty avec cette notion des mondes privés, cette notion que percevoir les choses, donc on est un peu condamné à les effleurer, et c'est ça que j'ai envie de travailler aujourd'hui. Donc là, en tant qu'anthropologue, c'est un peu ça qui me motive. Dans quelle mesure on est vraiment condamné à effleurer la réalité du monde de l'autre, en fait? Mais je n'ai pas de réponse, et c'est le projet d'une vie de recherche pour le moment.
Je vois qu'il y a d'autres questions, mais on va peut-être les garder pour le débat. Après, je propose qu'on fasse la troisième communication, et puis après, voilà, on posera quelques questions au prochain communicant, et après, on...